Et chaque jour qui passe me donne cette conviction qu'en effet, c'est au niveau local qu'on peut agir. C'est-à-dire que quand vous parlez écologie, quand vous parlez d'énergie, quand vous parlez de pouvoir d'achat, les gens, si vous souhaitez agir sur le pouvoir d'achat, qu'est-ce qui aujourd'hui grève le pouvoir d'achat ? C'est principalement la mobilité, c'est principalement le chauffage, c'est principalement le logement. Bah, ce sont des réalités communales.
En Dégavinus, Politicus, le podcast pour entendre les personnalités angevines qui font le choix de l'engagement politique pour défendre leurs convictions citoyennes et démocratiques. Députés, sénatrices, conseillers municipaux ou représentants de partis, 30 minutes pour s'intéresser à leur parcours et leurs engagements. Découvrez le profil de ces hommes et de ces femmes qui font vivre la démocratie angevine. Simon Ollet, 32 ans, bonjour.
Bonjour.
32 ans, enseignant agrégé de droit et d'économie. Alors, si je suis un historique très non exhaustif, vous avez été référent pour La République en marche à une certaine époque. Vous avez surtout été candidat aux législatives en faveur du président, de la majorité, en tout cas de la majorité que le président tentait d'avoir en 2022 et 2024, pour la troisième circonscription de Maine-et-Loire. Citoyen proactif et engagé, assurément en faveur de la démocratie et de son territoire, notamment en perspective des élections municipales mars 2026 pour la commune d'Allonne. On va donc s'intéresser ensemble à ce parcours et ses convictions, cet engagement également, et puis cet exercice de la politique et éventuellement la carrière qui peut-être se dessine dans votre esprit. Mais d'abord, si on parle vraiment du citoyen Simon Ollet, quelles sont les valeurs que vous défendez, qui vous tiennent à cœur ? Ce sont l'environnement, le social, l'économie, et c'est aussi votre thématique en tant qu'enseignant. Quels sont les thèmes qui vous tiennent à cœur en tant que citoyen, vous ?
Moi, je pense que quand on s'engage en politique, on s'engage en effet pour des valeurs. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que je m'engage pour rendre les gens plus heureux. En fait, pour moi, c'est la base. Après, tout le reste, ce ne sont que des outils pour les rendre plus heureux. Donc, quand on parle d'environnement, évidemment, si on a une planète qui ne fonctionne plus et qui meurt, eh bien, nous ne serons pas plus heureux et voire nous serons tous malheureux. Si par ailleurs, on a des difficultés passagères, on tombe à un moment donné parce qu'une entreprise ferme, parce que notre femme nous quitte, parce qu'on perd un enfant, bah oui, il faut que l'État soit là. Donc moi, je pense que le rôle de l'État, il est d'encourager évidemment à la liberté, faire en sorte qu'on crée de la valeur par l'entreprise, mais aussi qu'on vienne en aide à ceux qui en ont besoin à un moment donné, pour que justement ils retrouvent cette liberté. Pour moi, le point le plus important, c'est le terme d'émancipation. Pour moi, il faut nécessairement qu'on soit libre et que pour être libre, il faut déjà qu'on soit tous au même pied d'égalité quand on est. Et par ailleurs, faire en sorte que quand on a quelques difficultés, on puisse être aidé par l'État. Donc, en gros, j'ai souvent la coutume de dire que j'ai le portefeuille à droite, mais le cœur à gauche. Et ça, je crois que c'est un petit peu la notion du « en même temps » d'Emmanuel Macron qui m'a beaucoup plu en 2017.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous parlez d'environnement. L'environnement, c'est plus l'apanage de la gauche, finalement. Tout le monde, ça dépasse le cadre politique, j'ai l'impression.
Au-delà de ce micro-vert, en réalité, oui, c'est une évidence que si on ne traite pas les sujets environnementaux, on ne traite aucun sujet. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'environnement, dans le cadre de ma campagne municipale, par exemple, est au cœur de tous les sujets. C'est-à-dire que chaque projet doit pouvoir s'inscrire dans le respect de l'environnement, parce que à partir du moment où on n'a plus d'endroit où nous installer, nous ne pouvons plus nous installer du tout, et donc on ne peut plus être heureux. Et donc c'est concrètement un combat qu'on doit absolument mener, qui est une urgence, et que les scientifiques nous rappellent en permanence à la réalité. Hein. On a aujourd'hui des sécheresses hyper importantes, on a des canicules qui se multiplient d'année en année, donc évidemment qu'il faut qu'on réagisse, et donc c'est un point pour moi d'engagement hyper important. Oui.
Alors si la politique est un outil pour le bien-être de la société, en tout cas pour un outil dont on peut s'emparer pour améliorer le quotidien des gens, est-ce qu'il y a d'autres outils dont vous avez pu vous emparer avant de faire l'engagement politique ?
En réalité, pour moi, en effet, c'est pas la politique qui est un outil en tant que tel, c'est l'engagement. Enfin, c'est-à-dire que l'engagement associatif, par exemple, moi je me suis largement engagé dans les associations, à la fois dans les associations, par exemple, pour faire découvrir le droit à des lycéens, dans les associations type Emmaüs à Saumur, dans lesquelles je suis engagé, des associations type AMAP, les associations de maintien pour l'agriculture biologique, dans lesquelles je suis aussi engagé allongée sur mon territoire. Bah, concrètement, c'est comme ça qu'on change aussi petit à petit les choses. Maintenant, en effet, nos institutions, notre constitution donne à notre Parlement et à nos élus en règle générale la possibilité de prendre des décisions et donc d'agir concrètement sur la vie des gens, à la fois en faisant les lois et puis par ailleurs en mettant en place des projets au travers un budget qui est alimenté par les impôts. Donc concrètement, la politique, c'est évidemment un élément de pouvoir qui permet d'offrir cet idéal, de faire en sorte que les gens soient plus heureux. Mais il y a d'autres moyens, et l'association, c'est évidemment un moyen important.
Alors, cette conviction de l'engagement en faveur du groupe, hein, on sent que la notion du collectif est très importante chez vous. Cette conscience, elle était naturelle, elle est arrivée, il y a eu un déclic à un moment donné dans le parcours pendant, je ne sais pas, une expérience au lycée ou alors très tôt à l'école ou alors peut-être au sein de l'environnement familial ou c'est à un moment donné vous en avez pris conscience et c'était déjà là.
En fait, j'arrive assez mal à dater cette envie de m'investir pour les autres. Alors moi, j'ai toujours été délégué de classe. Bon, c'est un des éléments pour lequel on s'engage, mais je suis issu d'un milieu dans lequel, en effet, ma maman est assistante sociale, donc peut-être qu'il y a un peu de ça. Je sais pas. Après, je pense que dans tout parcours politique, il y a quand même un moment où on se dit, OK, là, j'ai envie de changer les choses. Enfin, je crois que c'est d'ailleurs pour toutes les personnes qui s'engagent dans l'associatif, comme dans l'entrepreneuriat, comme dans la politique, il y a toujours un moment donné où on se dit... il y a quelque chose qui nous donne envie de changer les choses. Moi, par exemple, mes parents ont divorcé et je crois que... Alors, j'ai très, très mal vécu ce divorce et je crois que le jugement du divorce m'a donné l'impression d'une injustice et peut-être que c'est ce qui a fait naître chez moi cette envie de faire du droit, de changer le droit et du coup d'agir pour que des choses, parfois même simples, puissent se mettre en place pour que les gens soient plus heureux, quoi, tout simplement.
Si on revient un petit peu dans l'historique de vos différents engagements avant de parler de la politique un peu plus en profondeur, est-ce qu'il y a des souvenirs qui remontent au-delà de cette expérience que vous relatez, des souvenirs d'engagement, de rencontres humaines, de voyages peut-être qui vous ont marqué ?
Oh bah, il y en a plein. C'est-à-dire que, après, est-ce que l'engagement a précédé ces voyages ou est-ce que c'est les voyages qui ont fait naître l'engagement ? Par exemple, je me souviens qu'au collège, j'étais à l'initiative du premier club écologie qui s'inscrivait dans l'idée. Alors, le collège de Calypso à Montreuil-Bellay était en train de subir des travaux et donc il s'agissait de savoir comment est-ce qu'il ce collège allait être réhabilité et on avait au sein de ce club écologie mis en place un certain nombre d'actions pour encourager aussi à ce que on fasse le tri des déchets, à ce qu'il y ait des panneaux solaires, etc., etc. Et puis après, bon, il y a énormément de choses qui ont fait évoluer mes engagements, mes idées aussi, hein, à la fois. Alors, j'ai fait un tour de France à vélo avec l'UDI, par exemple, qui a, au-delà même du parti pour lequel je faisais ce tour, m'a profondément transformé. Le fait de rencontrer plein de gens, le fait de rencontrer cette contradiction aussi. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'étais dans un parti, on est dans un parti, tout le monde est d'accord avec tout le monde. Quand on est en contradiction, qu'on va voir des gens sur les marchés, etc., c'est complètement différent et on apprend vraiment de ça. Et puis j'avais fait un voyage en Afrique du Sud aussi, pendant 2 mois, où alors là l'objectif c'était d'apprendre l'anglais. Donc j'avais envoyé des messages à toutes les associations anglaises, de Londres, pour faire un voyage. Et en fait je me suis retrouvé en Afrique du Sud, parce qu'une association d'Afrique du Sud avait une antenne à Londres, et en fait c'est quasiment la seule qui m'avait répondu. Et donc j'étais venu en aide à des enfants brûlés. Donc c'était une petite association qui s'appelle Children of Fire, qui en fait aidaient des enfants brûlés dans le cadre de leur chirurgie à recevoir de l'éducation et puis tout simplement à reprendre un peu confiance en eux puisque beaucoup avaient subi déjà des brûlures volontaires, des gens qui les avaient brûlés volontairement, soit par punition, soit par sadisme. Et puis, parce que ils étaient souvent déformés, leur visage était déformé, leur corps était déformé, et donc là aussi, il s'agissait de reprendre confiance en eux. Donc j'ai aussi... Ce voyage m'a particulièrement marqué. Puis après, toutes les rencontres marquent, Jean-Louis Borloo, la rencontre avec des candidats aussi, à Rennes, vous parliez de Rennes tout à l'heure.
Vraiment, beaucoup de choses, beaucoup de rencontres m'ont marqué. Et c'est ce que j'aime aussi en politique et dans les associations, c'est qu'on rencontre des gens. Et ces gens, au-delà de les rencontrer et évidemment de leur parler de ce que nous, on pense, ils nous parlent eux aussi de ce qu'ils pensent. Et donc, ça nous fait changer. Et ça c'est hyper intéressant.
J'ai le sentiment que si vous n'arrivez pas à identifier temporellement le moment d'un déclic en faveur, pour l'engagement citoyen en faveur de l'autre, de la société, que c'est un peu pareil pour la politique, parce que du coup on a glissé tranquillement sur les souvenirs avec l'UDI, on parle de Jean-Louis Borloo et tout ça. Ça a été naturel de passer de délégué de classe à étudiant engagé pour un parti ?
Bah, dans la mesure où mon engagement est né, à mon sens, de cette petite injustice du divorce, et que cet engagement, enfin, et que cette injustice, elle était liée à un droit qui était appliqué, il m'a semblé que c'était assez logique de faire de la politique, parce que c'est quand même en politique que l'on peut modifier les lois, c'est-à-dire que ce sont les parlementaires qui font la loi et que ces parlementaires s'inscrivent dans des partis politiques. Et donc, je crois que ça a été quand même assez logique. Après, c'est vrai que j'ai quand même du mal à caler, à cibler tout ça, à savoir si vraiment tout s'est fait naturellement. Mais pour moi, c'est assez logique. Enfin, je dis assez souvent que quand on est engagé dans une association, quand par exemple on vient en aide à des personnes démunies à Emmaüs, on fait de la politique en réalité. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, faire de la politique, c'est pas simplement s'inscrire dans un parti politique. Faire de la politique, c'est s'inscrire dans le bien commun et faire en sorte de défendre l'intérêt général. Et quand on défend les plus faibles, on défend généralement l'intérêt général.
Parlons peut-être de la démocratie. Votre regard, on en a un petit peu parlé aussi tout à l'heure au début, votre regard sur la démocratie en France, qui est parfois décriée, on a l'impression que les gens ne vont plus voter, enfin les gens se sentent de moins en moins concernés par l'exercice de la démocratie et de la citoyenneté au sens large. Pourtant, il y a un Parlement qui tourne, il y a aussi un exécutif qui est présent. On voit en plus en ce moment, précisément avec la situation actuelle, que malgré le blocage de les travers de la Ve République, ça marchouille quand même un petit peu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être changées aussi avec cette démocratie à la française ?
Déjà, je partage pas du tout le constat que vous venez de faire. C'est-à-dire que pour moi, les gens continuent à s'intéresser très très largement à la politique. Le problème, par contre, et d'ailleurs, quand vous dites que les gens ne vont plus trop voter, la réalité, c'est qu'ils vont voter quand il y a un enjeu. C'est-à-dire que les Français ne sont pas bêtes. Et quand concrètement, il n'y a pas d'enjeu, ils ne votent pas. Tout le monde s'est surpris qu'on ait une faible participation aux élections départementales et régionales. Mais excusez-moi, mais ils n'ont aucun pouvoir. Enfin, c'est-à-dire que le département ou la région, vous prenez quelqu'un de gauche, de droite, d'extrême droite ou d'extrême gauche, ça ne change strictement rien, si ce n'est à des petits symboles, des petits milliers d'euros. Des subventions pour les associations, ce qui n'est quand même pas rien, mais globalement, ça ne change rien à la politique globale. Et ça ne rend pas plus heureux les gens que vous ayez. Enfin, et donc les gens ne vont pas voter parce que ça n'a pas d'impact. Par contre, quand vous avez une législative partielle, vous voyez que les gens vont voter. Par contre, des législatives après une présidentielle, les gens ne vont pas voter parce que on leur a déjà annoncé le résultat. Et donc, en fait, en réalité, je pense que les gens, y a un vrai besoin de redonner du sens aux élections, en redonnant du sens au pouvoir politique. Je pense qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est que les gens ont l'impression, et je partage d'ailleurs cette impression, ce qui est triste parce que je fais moi-même de la politique, mais je partage l'impression que les politiques sont impuissants aujourd'hui. Et je crois qu'ils le sont pour plusieurs raisons, parce que l'administration est très complexe, parce qu'ils se rendent eux-mêmes impuissants par un jeu de petites phrases, etc. Mais en tout cas, je crois que c'est pour ça qu'ils ne se déplacent pas, et non pas parce qu'ils ne s'y intéressent pas. Je pense que les gens sont vraiment, ils sont intéressés. Et je le vois aussi pour les élections municipales. On est assez loin des élections municipales, et pour autant, quand je frappe aux portes des gens à Allonne, les gens me reçoivent, savent qui je suis, ont vu l'article dans le journal, savent qu'il y aura des élections et connaissent l'enjeu de ces élections. Donc je pense que vraiment, là où il va falloir qu'on travaille, c'est sur le débat, sur les marges de manœuvre qu'on peut avoir, sur quelle radicalité on propose, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de radicalité, et peut-être que dans certains moments, on manque de radicalité. notamment aux élections départementales et régionales. Moi, je pense qu'il faudrait une liste pour proposer la suppression du département, une liste pour proposer la suppression de la région, par exemple. Je pense que ces deux échelons n'ont aucun intérêt et aucun sens. Et voilà, je pense que c'est avant tout ça. Alors après, il faut qu'on porte des idées et qu'après, on les mette en application de manière assez radicale. Ce qui implique parfois de faire des mécontents, des insatisfaits. Parce que bah, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez un gouvernement qui fait des propositions qui sont évidemment impopulaires. Ça, c'était une évidence. Mais à un moment donné, si on n'a pas ce discours de vérité, les Français arrêteront tout simplement d'aller voter ou se détourneront vers les extrêmes, ce qui est un peu ce qu'on voit en ce moment. Donc la démocratie, je pense qu'elle existe encore. Et par contre, il faut qu'on la libère de tous les carcans administratifs et politiques aujourd'hui.
Comment on construit cette réflexion et comment ça se développe chez vous? Quel a été votre historique politique depuis ce premier engagement auprès de l'UDI jusqu'à maintenant au Parti Horizon, c'est pas un secret, avec un petit passage plutôt au centre pour La République En Marche puis Renaissance. Comment on construit ce discours, ces convictions justement politiquement là, sur l'engagement politique pur? Qui on rencontre? Comment on apprend?
En fait, quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit qu'il fallait que je choisisse. À cette époque-là, c'était juste après l'élection présidentielle où François Hollande a été élu. Je me suis dit, j'ai 18 ans, je peux désormais voter. Bon, il y a un moment donné, il faut que je m'engage. Donc, je me suis engagé auprès de Jean-Louis Borloo pour deux raisons. La première, c'est que pour moi, l'homme était important. Et je crois que l'incarnation en politique, on a tendance un peu à la railler, à dire que non, il faut parler de fond, etc. Je pense que l'incarnation, elle est quand même importante, parce que l'homme, c'est celui qui fait la méthode et c'est celui qui ensuite permet de faire les compromis dont vous parliez, au-delà des compromissions, des compromis pour faire avancer le pays, je crois. Et donc Jean-Louis Borloo m'a séduit parce que d'abord, il était le premier à faire le Grenelle de l'environnement et donc pour moi, c'était ce qu'il fallait faire. Et puis, il y avait cette méthode, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup avec les syndicats, qui, à ce moment-là, déjà était plutôt apprécié à gauche et à droite. Et je trouvais que l'idée d'avoir quelqu'un qui fasse un peu consensus, qu'on vote ou pas pour lui, c'était intéressant. Et puis, après, on fait ses convictions par rapport à ce qu'on pense et ce qu'on observe. Moi, j'ai toujours fait un peu d'économie, j'ai toujours été intéressé par l'économie. Il me semblait que les propositions qui tendaient vers le communisme étaient intéressantes, mais inapplicables. Moi, je trouve que l'utopie est belle, mais malheureusement, l'histoire nous a montré que ça ne fonctionne pas, en tout cas à une échelle aussi importante que le pays, qu'est la France. Peut-être que ça peut fonctionner entre voisins, mais ça ne fonctionne pas au niveau national ou international. Et puis, j'ai toujours rejeté l'idée que c'était la faute d'eux, et que parce que c'était la faute d'eux, il fallait taper sur un tel ou un tel. Donc, soit pour l'extrême gauche, il fallait taper sur les riches. Ou pour l'extrême droite, il faut taper sur les immigrés ou les étrangers. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je pense que c'est pas du tout les valeurs de notre pays, il me semble, et les valeurs de notre République. Donc voilà, je me suis ancré là-dedans. Et puis après, on rencontre des gens. C'est vrai, le parti politique aide à ça. C'est-à-dire que c'est comme une association. Donc on arrive, on est plutôt bien accueilli généralement, même si c'est pas toujours si simple que ça. Et puis, on discute, on échange, on confirme ou on infirme nos idées. Et puis après, dans chaque parti politique, il ne faut pas oublier qu'on reste des individus. Et ce que j'ai toujours apprécié dans les partis dans lesquels j'ai été, je ne peux pas dire pour les autres, mais les partis dans lesquels j'ai été, c'est que même si on défend évidemment une ligne, y a un moment donné, il y a quand même des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, quoi. Et puis si on n'est pas d'accord, on peut le dire. Alors en interne, on ne va pas non plus le crier partout, ce n'est pas l'objectif. Parfois, on peut le dire un peu plus bruyamment. Mais je trouve que c'est aussi intéressant de se dire que dans les partis politiques, il y a une démocratie interne qui nous permet d'une part de faire des choix, mais parfois de ne pas être d'accord avec le choix majoritaire.
En tout cas, malgré les voyages du début, toutes ces expériences qui vous ont emmené à droite à gauche, et puis ces engagements en fonction de là où vous étiez, aujourd'hui vous êtes un peu plus implanté depuis quelques années ici, dans l'est de l'Anjou, du Maine-et-Loire. Cet engagement en faveur du territoire, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez récent dans votre conception de l'engagement politique ou ça a toujours été un peu une forme de projet, puisque du coup là on va parler après des perspectives assez proches de mars 2026 et des municipales.
Alors, pour être totalement honnête, ça n'a vraiment jamais été un projet. C'est-à-dire que j'ai pas de plan de carrière ou plan de... y compris lorsqu'on est venu me chercher pour ces élections municipales, par exemple, sincèrement, je ne me sentais presque pas légitime à le faire. Maintenant, c'est vrai que je pense que c'est l'âge aussi qui fait ça. J'ai commencé ma carrière d'enseignant en étant à Paris, ce qui m'obligeait à faire des allers-retours entre Paris et Saumur. Bon, de fait, quand vous faites des allers-retours entre Saumur et Paris, la réalité que vous voyez, c'est plutôt les éoliennes dans le TGV que la réalité de votre territoire dans les associations. Ça a changé assez largement depuis maintenant 4-5 ans, c'est-à-dire depuis, en gros, le moment où j'ai été muté plutôt proche de la région, à Tours, ce qui m'a permis donc d'être beaucoup plus investi sur mon territoire, dans les associations, de rencontrer un certain nombre de personnes aussi, un certain nombre d'élus sur le territoire. Et donc forcément, ça donne l'envie de s'engager davantage pour le territoire. Après, il y a plusieurs façons de s'engager pour le territoire, mais c'est dessiner cette possibilité de m'engager pour ma commune. Et donc, aujourd'hui, c'est dans ce schéma-là que je m'inscris.
Et justement, est-ce que cet échelon territorial, puisqu'on a bien compris que le département et la région, c'est pas forcément quelque chose qui vous paraît idéal pour pouvoir bouger les choses, on est plutôt sur presque de la bureaucratie, de l'administration brute. Est-ce que l'échelon communal est le bon échelon aussi pour pouvoir agir concrètement sur le quotidien des gens?
Je crois, et chaque jour qui passe me donne cette conviction, me renforce cette conviction, qu'en effet, c'est au niveau local qu'on peut agir. C'est-à-dire que quand vous parlez écologie, il y a un moment donné, quand vous parlez terre, la terre, elle se trouve sous les pieds des habitants de notre commune. Et donc, si vous parlez de préservation de cet environnement, c'est au niveau communal que vous allez le faire. Quand vous parlez d'énergie, il y a un moment donné, si vous voulez produire de l'énergie, il va falloir le faire sur un territoire, il va falloir construire. Et donc, au niveau communal, c'est là encore intéressant d'y réfléchir. On peut évidemment y réfléchir aussi au niveau intercommunal, au niveau départemental éventuellement si ça faisait partie des compétences, mais en tout cas c'est là où vous en parlez. Quand vous parlez de pouvoir d'achat, les gens si vous souhaitez agir sur le pouvoir d'achat, qu'est-ce qui aujourd'hui grève le pouvoir d'achat? C'est principalement la mobilité, c'est principalement le chauffage, c'est principalement le logement, ce sont des réalités communales. Donc concrètement, ça, c'est ici que vous pouvez agir. Si vous parlez de sécurité, la sécurité, les gens, quand ils subissent des vols, des incivilités, c'est au pied de leur immeuble, dans leur rue. Et donc concrètement, c'est au niveau communal que vous pouvez agir, que ce soit sur les questions d'agriculture, c'est au niveau communal que vous allez agir, etc. etc. Alors évidemment, au niveau communal, vous avez quand même à respecter les lois, et les lois peuvent avoir un impact plus important, national, mais je crois beaucoup à deux choses. La première, c'est qu'au niveau communal, on a beaucoup de leviers qui ne sont pas forcément budgétaires, qui sont parfois des leviers tout simplement pour créer des consensus, pour emmener vers des transitions. Par exemple, on parle d'énergie. Je pense que le développement du solaire, c'est quelque chose qui peut se faire très largement au niveau communal. Quand on parle d'agriculture, si on le fait avec nos agriculteurs au niveau communal, le maire a un rôle hyper important dans la transition. Quand on parle de logement, c'est la même chose. C'est le maire qui, en matière de logements sociaux, a un pouvoir intéressant. Quand vous parlez d'environnement, en règle générale, de mobilité, c'est pareil. À un moment donné, si vous voulez faire de la transition, il va falloir convaincre vos habitants que peut-être que l'électrique, c'est intéressant pour eux, pas pour tout le monde, mais peut-être pour certains d'entre eux, etc. etc. Donc, il y a un rôle, pour moi, le rôle de l'élu local, c'est un rôle finalement de maillon aussi pour faire la promotion des dispositifs nationaux qui existent. Que ça soit pour isoler les logements, etc. etc. Tout ça, il y a plein de dispositifs qui existent. À l'élu local aussi, parfois, de le promouvoir pour faire en sorte que, véritablement, les objectifs nationaux se mettent en place au niveau local. Et puis, la deuxième chose, c'est que la Constitution offre aujourd'hui la possibilité d'expérimentation locale. Et ça, je crois qu'on ne s'en saisit pas encore assez pour notamment faire en sorte que la loi, pour le coup, sur notre territoire, alors pas forcément sur une commune comme Alonne, mais peut-être sur l'intercommunalité, puisse évoluer, que cette loi puisse évoluer, elle puisse être différente, pour que peut-être à terme, elle puisse être nationalisée et qu'on puisse donc, à travers nos territoires, donner un exemple à d'autres territoires et donc à la nation tout entière.
Dans quel état d'esprit vous êtes à la perspective de ce nouvel engagement politique, cette nouvelle échéance qui approche plutôt positive, plutôt on travaille, plutôt stressante aussi, parce qu'il faut aussi cumuler avec l'autre vie professionnelle, la vie professionnelle à côté. Dans quel état d'esprit on se place?
C'est vrai que quand on est candidat, il y a énormément d'émotions qui vous traversent parce que vous vous sentez sous le poids d'une responsabilité, parce que c'est vous qui menez la liste. C'est donc à vous aussi de mener cette dynamique, de faire en sorte d'encourager l'équipe. Donc c'est assez stressant, c'est assez responsabilisant et en même temps c'est hyper enthousiasmant. Enfin c'est absolument génial. Enfin en réalité, moi j'adore ça. Je pense que j'ai rencontré beaucoup de politiques. J'ai jamais vu de politique qui n'aimait pas les gens. Enfin, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. Je pense que tout le monde, tous ceux qui font de la politique aiment les gens. Enfin je crois qu'il faut, c'est le début. Et en fait, la politique, et notamment quand on est candidat, c'est aussi une opportunité pour aller rencontrer de nouvelles personnes. Et donc, c'est toujours hyper enthousiasmant. Enfin, moi, j'adore ça. Après, c'est vrai que sur la perspective à Alon, c'est d'autant plus enthousiasmant qu'il y a cette envie de renouvellement, cette envie de changement qui porte notre liste et fait en sorte que, en effet, on ait envie encore et encore à la fois de ne pas décevoir et en même temps de rapidement passer à l'action.
Une fois élu en tant que maire, est-ce que ce sera vraiment le terrain de jeu de l'application concrète de vos convictions, ou alors justement il y aura cette, non pas compromission, mais compromis avec le groupe qui a élu, la société alonaise, qui du coup porte aussi de l'espoir en vous pour entendre un peu tout le monde et devoir faire des compromis, entendre toutes les idées, toutes les tendances.
Je crois que c'est le rôle du politique, encore une fois, d'écouter tout le monde, mais c'est en même temps, à la fin, le rôle du politique de trancher. Et donc d'avancer vers une certaine vision. L'objectif des élections, c'est de trancher aussi cette vision. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va porter dans le cadre de cette élection, alors ce ne sont pas des convictions politiques liées à mon parti, puisque en réalité, les personnes qui sont autour de moi dans cette liste ne sont pas du tout affiliées à des partis politiques, que notre liste n'est pas affiliée à un parti politique. Mais néanmoins, je, évidemment qu'en tant que tête de liste, je vais porter mes convictions, qu'on en débat au sein de notre liste. Et puis après, on priorise et puis on fait des choix parmi les propositions qu'on peut porter. Tout le monde ne défend pas forcément les mêmes priorités. L'idée, c'est évidemment de créer un consensus et puis à la fin, de porter une liste qui soit tout de même cohérente. L'idée, c'est pas de rassembler des hommes pour rassembler des hommes, enfin des hommes et des femmes pour rassembler des hommes et des femmes. C'est vraiment de nous mettre d'accord sur un projet, une ligne, une vision qui... ancre la commune sur les 7 prochaines années du prochain mandat, mais aussi sur l'avenir. Et donc, évidemment, alors j'entends toujours que la politique, c'est faire des compromissions, etc. Enfin, qui n'en fait pas dans son milieu professionnel face à des collègues que l'on apprécie moins, face à des clients qui sont difficiles, face à des fournisseurs qui négocient les prix. Enfin, en réalité, la politique n'est pas différente des autres, et donc les hommes ne sont pas différents des autres d'ailleurs. Et donc concrètement, vous avez évidemment des consensus à construire, et puis parfois, en effet, vous ravalez votre proposition et vous vous dites que vous la défendrez encore mieux la prochaine fois.
On parlait des allers-retours à Paris il y a quelques temps, il y a au moins 5 ans pour vous, qui empêchaient de s'investir. Est-ce qu'il y a une perspective comme ça, après une élection municipale, de prochaine législative, peut-être de faire de nouveau des allers-retours vers Paris pour défendre son territoire ?
Moi, je veux m'ancrer d'abord sur cette élection-là et puis m'ancrer sur ce mandat-là, parce que je crois qu'on ne peut pas non plus se disperser. Il y a un moment donné, quand on s'engage dans un projet, il faut le mener au bout. Et je crois qu'à Alon, il y a besoin d'énormément d'engagement. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse se permettre de s'éparpiller. Après, ce n'est pas pour autant que j'oublie la perspective de changer davantage encore la vie des gens en m'investissant dans la modification de la loi. Et c'est vrai que c'est à l'échelon parlementaire qu'on pourra le faire. Donc, pour être concret, c'est quelque chose que je n'oublie pas. C'est aussi, en tant qu'élu, futur élu local, l'ambition de travailler avec nos élus parlementaires pour aussi faire évoluer la loi, parce qu'il y a aussi d'autres manières de s'engager au niveau national.
Et je vous laisse le mot de la fin pour revenir peut-être sur un point qu'on a pu évoquer ou qu'on aurait oublié d'évoquer et qui vous semblerait important d'annoncer, de réévoquer justement.
J'ai envie de revenir évidemment sur la campagne des municipales à Alon. Je crois qu'il y a une vraie volonté de changement au sein de notre commune. Il y a une vraie volonté de changement en règle générale du personnel politique dans nos communes. Je crois que c'est par nos communes qu'on va pouvoir changer les choses. Et puis j'ai l'ambition que peut-être on puisse rendre les gens plus heureux à Alon, mais je l'espère ailleurs aussi.
Merci beaucoup Simon Hollet, candidat pour les élections municipales d'Alon en 2026, d'avoir répondu à mes questions.
Merci.
en Degavinus Politicus.